Bonjour les amis de Radio Valois-Mulsien 93.7, la émission, la 219e émission de À Votre Santé. Aujourd'hui, pas de femmes avec nous. Nous sommes deux hommes, les deux vice-présidents de l'association pour un centre, pour des centres de santé dans les pays de Valois.
Bon. Avec le toujours jeune Daniel Cléo.
Et Christian Max, voilà. Donc vous aurez ma belle voix de Picard pur sang à la place d'Hélène qui a eu un mot signé de sa maman. Voilà, pour une absence tout à fait légale. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de tout ce qui ne va pas ou ce qui va bien sur le problème de la santé en France et dans notre région. Et alors oui. Christian, statistique.
Moi j'avais envie de réfléchir un peu sur ce qui s'est passé depuis quelques années.
Oui.
Et donc, on a fouiné dans la presse et puis on a trouvé des choses très intéressantes, par exemple, à propos du Covid
oui.
et d'autres possibles pandémies. Parce que le Covid, c'en est une, mais il y en a eu d'autres avant et les spécialistes disent qu'il y en aura d'autres après.
C'est-à-dire ?
Voilà. Alors, donc, la crise sanitaire a montré qu'une pandémie pouvait faire beaucoup de ravages.
Bien sûr.
Celle-là après l'autre... Simplement, en considérant la France, on a quand même eu 170 000 décès. Mmh. 424 milliards d'euros, c'est ce que ça nous a coûté sur la période 2020-2022, sans compter les impacts sur la santé mentale, notamment des adolescents, et les inégalités qui se sont renforcées au détriment des plus précaires, bien évidemment.
Et les toujours les mêmes qui longs également, qui font encore des ravages.
Et qui ouais. font des ravages. Ouais. On commence à comprendre d'où ça vient,
ouais.
mais bon,
ouais.
on n'est pas encore sorti. Hein. Alors, ce qui est particulièrement inquiétant, ce sont les virus respiratoires. Ce sont eux qui nous causent des soucis, puisque dans un futur proche, tout le monde pense, enfin tous les spécialistes pensent que ça va continuer. Alors, sur les 20 dernières années, par exemple, on a vu arriver le SARS, le MERS, le chikungunya, le H1N1, le Zika, Ebola, Monkeypox, et encore quelques autres,
ouais.
contre seulement deux maladies infectieuses. Sur les 20 dernières années précédentes. Donc, la prochaine, hein, ça sera probablement un virus respiratoire.
Ouais.
Alors, comment s'y préparer ? On peut se poser la question quand même, hein, puisque maintenant, on sait que ça va revenir, de toute façon. Alors, le système de lutte qui a le mieux marché, c'est apparemment celui des Danois, qu'on peut résumer par « agir tôt et fort ».
Voilà.
Et Danemark, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils ont vu ce qui se passait en Italie, ils n'avaient pas envie de se retrouver face au même problème.
Ouais.
Et donc le gouvernement a pris des mesures très fortes, immédiates, dès les premiers cas. Fermeture d'écoles, de restaurants, télétravail, etc., etc. Et ce qui leur a permis de garder la situation sous contrôle.
Ouais.
Donc conclusion, plus on prend des mesures tôt, plus on limite la circulation du virus.
Et des mesures dures, mais
ouais.
tant pis.
Alors, en plus d'éviter le pire en termes d'excès de mortalité, de ne pas saturer les hôpitaux, cette stratégie a permis d'éprouver l'efficacité des mesures et de les faire changer avec l'évolution de l'épidémie. Ce qui est quand même une bonne chose. Alors, ce Danemark, toujours, lui, il s'est aussi distingué dans la vaccination avec une majorité de personnes âgées vaccinées. Et ce qu'on a constaté, c'est que la vaccination... a été la plus faible, là où ça s'est passé comme ça, c'est là qu'il y a eu le plus de morts.
Voilà, donc voilà. La vaccination est quand même...
Donc, en plus de protéger des formes graves, les vaccins ont permis d'atteindre l'immunité
oui.
et de soulager les mesures de contrôle.
Oui, parce que même une personne vaccinée peut être atteinte, mais ça sera une forme beaucoup moins grave.
Oui, alors, ceux qui disent qu'on s'en serait sorti sans les vaccins, nous mentent, c'est faux.
Bien sûr.
En France, on estime qu'au moins 150 000 personnes ont été sauvées grâce aux vaccins.
C'est quand même pas mal.
C'est toujours ça de gagner.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, quelques autres pays ont aussi opté pour une stratégie zéro Covid, mais le souci, c'est que ce sont des îles, donc des endroits où on peut très facilement contrôler les entrées
bien
et les
sûr.
Sorties.
Bien sûr.
C'est beaucoup plus difficile à appliquer en Europe.
Bien sûr.
Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour les hôpitaux ?
Dans les chiffres.
On trouve un magnifique titre. 4 ans après le Covid, des hôpitaux exsangues et la menace d'une bombe à retardement. On parle de la France. Hein.
Oui, 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 oui.
Alors, des hôpitaux exsangues, bon ben, on sait bien qu'il y a de moins en moins de médecins, qu'ils n'arrivent plus à recruter, qu'ils ne trouvent plus d'infirmières. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? Ben, on est obligé de fermer des lits.
Bien sûr.
Et puis, on est obligé de retarder des opérations, des examens.
Ou en ambulatoire.
Ou en ambulatoire, à outrance, alors que des fois, il ne faudrait pas.
Voilà.
Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'il y aurait eu près de 3,5 millions de séjours en moins à l'hôpital entre 2019 et fin 2023.
Et moi, j'ai un autre chiffre en parallèle, c'est qu'en 3 ans, la PHP a perdu 12% de ses infirmières.
Ouais. On verra tout à l'heure, on va revenir tout à l'heure là-dessus.
Hein. Ouais, ouais.
Alors, ben, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ben, ça veut dire qu'en fait, on s'est préparé une dette.
Et oui.
Une dette de santé publique. Donc, certains services hospitaliers doivent aujourd'hui rattraper leur activité mise en suspens pendant la crise.
Bien sûr. Hein.
Alors, quels sont les services les plus touchés ? Ben, les services de médecine. La cardiologie, les maladies digestives, la rhumatologie, les endoscopies et les chirurgies lourdes. Ça, ce sont les secteurs les plus touchés. Donc, ces gens-là, s'ils n'ont pas été soignés à temps, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh oui.
Donc, ça va avoir des conséquences durables sur l'état de santé général de la population, en raison notamment du retard pris sur la détection de certains cancers ou la prise en charge insuffisante pour les diabétiques de plus de 35 ans.
Mmh.
Voilà. Et alors, les malades dans tout ça, s'il y a eu moins de prise en charge, c'est d'une part donc parce que les hôpitaux étaient surchargés, et puis aussi, on a constaté un renoncement aux soins de pas mal de gens face au délai d'attente démesuré.
C'est ce que j'allais évoquer.
Il y en a qui préfèrent carrément renoncer aux soins.
Oui. Ouais.
Et il n'y a pas que l'attente, il y a aussi la précarité qui s'est accentuée pendant la crise sanitaire et qui a conduit aussi à freiner les recours à l'hospitalisation. Et puis s'ajoute ce que tu disais tout à l'heure, le dépérissement des services hospitaliers en raison principalement du manque de soignants. Donc c'est à toi.
Alors moi j'ai aussi dans les soignants qui vraiment travaillent pour l'avenir, c'est le manque de sages-femmes. Les sages-femmes, il ne faut pas oublier qu'elles ont 6 ans d'études et elles sont considérées vraiment un peu au minimum vital puisqu'on leur propose 1 800 euros net. La fonction publique hospitalière, on leur propose 1 800 euros net par mois. Donc, c'est des personnes qui ont quand même fait 6 ans d'études après bac. Et ensuite, après, il y aura des conditions de travail. Naturellement, ce sont des travails postés, en 3-8, avec des conditions très difficiles et des responsabilités. Donc, il y a un gros, gros manque d'infirmières actuellement. Et je ne sais pas comment il va falloir réparer ce manque. Et c'est vraiment angoissant, quoi, parce que... Bon, il y aura d'autres secteurs, on pourra en parler après, d'autres secteurs qui sont en manque. Je ne sais pas où tu en es, Christian, dans ton idée, mais moi, j'avais dans l'idée les médecins du travail. Les médecins du travail, il y a un gros manque actuellement. Bon, en parallèle, il y a les inspecteurs du travail également. Alors, de plus en plus, les grosses entreprises ont leurs médecins du travail à eux, donc là, c'est quand même un peu ambigu d'être jugé parti, quoi. Voilà. Alors, pour revenir au manque de personnel hospitalier, on peut dire qu'il y a une époque, les effectifs avaient augmenté de 3%, alors que l'activité avait gagné de 19%. Donc, ce qui prouvait que les gens fallait qu'ils travaillent beaucoup plus, soient beaucoup plus rentables. On peut dire également, dans les hôpitaux, 60% du budget est alloué pour les salaires.
Et les salaires sont insuffisants.
Voilà, déjà ça c'est prouvé à l'échelon européen et plus même, ouais. Ouais. Donc c'est pas gai tout ça.
Mais en plus, dans ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est que la médecine scolaire a quasiment disparu.
J'ai complètement zappé, oui, c'est vrai.
C'est un peu embêtant parce que ça permettait de prévoir beaucoup de choses à l'avance.
Bien sûr.
De dépister pas mal de problèmes.
Bien sûr.
À temps.
C'est vrai.
Ouais. Alors, par exemple...
La vaccination aussi.
Oui, non, mais ce que j'ai constaté aussi, c'est... J'ai entendu dire, tiens, c'est bizarre, on ne vaccine plus contre la tuberculose.
Voilà.
Alors, j'ai vu passer un article récemment, expliquant que le nombre de cas de tuberculose était en train d'exploser en France.
Alors là, c'est quand même pas bon. Pas bon
c'est
tout.
Pas bon du tout.
Pas bon du tout.
C'est une maladie de pauvres.
Voilà. Et avant, on était vaccinés en tant que scolaire.
Ouais.
Maintenant, je ne sais pas du tout où on en est.
Ben, si c'est pour faire des économies sur la vaccination, c'est une économie qui va coûter cher, au bout du compte.
Hein. Ah oui.
Quand il va falloir soigner tous ces malades supplémentaires.
Ouais. Et puis, bon, ben, la contamination, quoi, c'est ça le problème. Ouais.
Alors justement, la contamination, c'est intéressant que tu en parles, parce qu'on a vu aussi que l'assurance maladie s'était mise à chasser les arrêts de maladie.
Voilà.
Alors, est-ce
voilà.
que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui se passe le pourquoi et le comment?
Nos gestionnaires sont aperçus que pour diminuer les arrêts de maladie, il suffit de taper sur les médecins généralistes qui délivrent les arrêts de maladie. Donc, ils sont policés et puis, bon, bah, même sanctionnés. Et là, ça devient vraiment mauvais parce que c'est pas la solution. Enfin, moi, je trouve. Parce qu'il y a 5000 médecins qui ont été pointés du doigt par la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Et ils sont sommés de rendre des comptes. Donc, c'est un véritable tribunal. Et donc, le syndicat des médecins généralistes signe le triomphe des intérêts économiques dans la sphère médicale. Donc là, c'est vraiment très, très, très mauvais parce que c'est pas la solution. Moi, je trouve, je sais pas. Si une personne est malade et elle a besoin d'un arrêt maladie, je vois rien d'anormal. Enfin, je sais pas.
Non, voilà. Mais ça c'est... on voit très bien que ce sont des gens qui travaillent sur des tableaux Excel,
voilà.
Hein, qui n'ont aucune idée des causes et des conséquences des décisions qu'ils prennent.
Et de l'humain, ouais.
Tout ce qu'ils voient, c'est des chiffres à rentrer dans leur case.
Alors
que leurs statistiques, ça ne veut rien dire, puisque suivant l'endroit où le médecin exerce, il peut y avoir des problèmes plus ou moins graves. C'est sûr que le médecin qui exerce dans le 16e arrondissement, il ne verra pas beaucoup de cas de silicose. Contrairement à celui qui travaille dans le Nord-Pas-de-Calais.
Je pense, oui.
Donc, cette manie de vouloir travailler uniquement sur des chiffres, médicalement, c'est une absurdité. C'est d'ailleurs ce que souligne la responsable dont tu parlais
du syndical,
tout à l'heure. On arrive à faire du n'importe quoi, simplement... Parce qu'on ne se préoccupe pas des conséquences des décisions que l'on prend.
On regarde les tableaux, voilà. Ouais. Tiens, il y a une bonne nouvelle. Notre ancien ministre de la Santé qui a été,
remercié.
Remercié, oui. Et après être ministre, il a été porte-parole. Voilà, ça y est, je cherchais le mot.
C'est Monsieur Véran dont on parle.
Monsieur Véran, il a trouvé du boulot, mais pas dans son métier premier.
Il était neurologue.
Neurologue. Non, il a dit que c'est trop dur. Il préfère travailler dans des cliniques esthéticiennes dans le 16e, aux Champs-Élysées. Donc lui, il n'a pas traversé la rue, il a traversé le boulevard. Voilà. Et il a trouvé du boulot.
Et la Seine.
On fait des épaississements de lèvres pour 4 500 €. Donc c'est bon. Voilà. Donc une bonne nouvelle. Notre ancien ministre a trouvé du boulot facilement. Ensuite.
Moi, j'en ai une pas bonne. J'ai vu que le maire de Châteauroux, donc qui est président du conseil de surveillance de l'hôpital de sa ville, déconseille fortement à ses concitoyens, de fréquenter les urgences de l'hôpital de sa ville, tellement c'est mal organisé.
Ça, c'est grave.
C'est quand même surprenant, quoi, en arrive là.
Ouais. Alors les gens, il faut qu'ils aillent où alors, d'après Monsieur le maire?
Il faut qu'ils aillent par exemple à Limoges, qui doit être à une centaine de kilomètres.
Ouais, c'est ça.
J'ai pas regardé sur la carte.
Bien sûr, mais à vue de nez,
donc ils conseillent d'aller plutôt dans les hôpitaux alentours plutôt que celui de sa ville. Est, je rappelle, le président du conseil de surveillance.
Ou dans le privé alors peut-être.
Ça il ne le dit pas. L'article ne le disait pas.
Ouais. Non mais c'est quand même terrible. qu'est-ce qu'il y avait d'autre on a fait un tour d'horizon là, un petit peu vague.
On a constaté qu'à Compiègne, pour l'instant c'est un constat, verra plus loin ce que ça peut vouloir dire. Comme on a vu que des gens de Compiègne venaient consulter à Crépy-en-Valois au centre de santé, on s'est demandé ce qui se passait. Et je suis allé voir simplement sur Amélie, j'ai compté le nombre de généralistes à Compiègne, Margny, Clairoy, Venet, Joux. Tout ça ensemble.
Ouais.
Donc, on arrive à 53 médecins au total, généralistes, enregistrés sur Amélie. Hein, je précise bien, je ne parle pas des hôpitaux, je ne parle pas de Saint-Côme. Hein.
Généralistes.
Voilà, voilà, ça se fait pour une population de 56 414 habitants, selon l'INSEE, en 2021. Ça ferait 1064 personnes
pour un généraliste.
Par médecin.
D'accord, d'accord.
Le chiffre qu'on estime comme à ne pas trop dépasser, c'est 900.
Oui, c'est pas 1000, c'est 900.
Donc,
ils sont
déjà un peu au-dessus,
c'est pas encore trop dans le rouge, quoi.
Non, c'est pas pire que chez nous, mais c'est quand même pas sur la bonne pente.
D'accord.
Puisque nos médecins nous l'ont dit, à Compiègne, il y en a beaucoup qui sont sur le départ parce qu'ils ont plus de 60 ans.
Bien sûr.
Et donc la situation ne va pas s'améliorer.
Bien sûr. Ouais, voilà.
Et pendant ce temps-là, le centre de santé, lui.
À Baie, par exemple.
Le centre de santé, lui. Il prospère, si j'ose dire.
Ah ben.
Et donc, on a ici un grand témoin qui va nous dire ce qui se passe à Baie depuis l'ouverture
de l'antenne de Baie. Où on en est, l'antenne de Baie, au bout de 3 semaines de fonctionnement.
Apparemment, ça fonctionne bien.
Ouais.
Les retours sont assez positifs. Les gens sont contents de retrouver un médecin, au moins pour l'instant, une permanence, en espérant que ce soit plus qu'une permanence sur l'avenir, voilà. Et notamment, j'ai constaté l'autre fois en allant à la pharmacie qu'il y avait la queue à l'extérieur.
Donc
je pense que la pharmacie de Baie et peut-être celle d'Assy et celle de Mareuil vont retrouver sûrement beaucoup plus de prestations de clientèle. Quoi. Ça doit faire sûrement travailler. Il y a sûrement une réaction...
Un effet boule de neige.
Un effet boule de neige, oui. Dû à cette permanence qui vient de se mettre en place. Alors maintenant, reste à savoir si on va pouvoir faire... ou avoir une permanence qui soit beaucoup plus...
Bien sûr, sans trop puiser dans l'effectif de Crépy.
Une permanence plus permanente, on va dire. Voilà,
voilà. Voilà. Mais il faut quand même souligner que les infirmières de... Les pharmaciennes de Baie étaient toujours auprès de nous, pour créer cette antenne. Voilà. Donc c'est bien.
Il faut rappeler aussi à nos auditeurs que les médecins du centre de santé... ce sont des hommes et des femmes qui n'ont que 24 heures par jour d'existence, comme les autres.
Et
s'il n'y a pas plus de permanence à la maison, au centre de santé de Baie, c'est parce que il faudrait qu'il y ait du monde pour le faire.
Ouais.
Et pour l'instant, le centre de santé, lui, il est quand même surchargé. Hein.
Ouais.
Et
c'est
déjà bien qu'ils arrivent à faire une permanence à Baie.
Chapeau, parce que je crois que ça doit être vraiment... Ric-a-rac.
Ils sont quand même très surchargés. Hein. Ouais, ils ont pas loin quand même de 200 patients par jour au centre de santé.
Oui, c'est quand même énorme. Hein, ouais.
Et ils sont pas... Bon, c'est vrai qu'il y a 10 médecins, mais ils sont pas tous présents en permanence 80 heures par semaine.
Hein. Ouais, et le noyau dur vieillit. Hein,
c'est ça. Les fondateurs, ils ont notre âge.
Il y a des jeunes, mais c'est vrai que le noyau dur vieillit. Et c'est tout. Moi, je crois que c'est tout, Christian. On a fait le tour, je me semble. C'est un grand tour d'horizon avec du bien, du mauvais, du moyen.
Ouais, moi, le plus inquiétant que je trouve quand même, c'est cette résurgence de la tuberculose.
Ouais, ouais.
Je pense qu'il va falloir relancer la vaccination obligatoire.
Et ça, on en parle très peu.
Ça concerne que les pauvres.
Soulagé.
Je suis peut-être mauvaise langue.
Merci pour la 219e. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter le mardi à 13h, le jeudi à 16h, le samedi à 10h30 et en podcast, comme on dit en français. Au revoir, les amis.
Au revoir.